poids. On accueille Caroline maintenant au 39-21. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça me fait très plaisir. Très bien, ça va. Je suis loin de la France actuellement.
D'accord, où êtes-vous?
Mais on vit exactement la même chose que vous. Je suis en Pologne.
D'accord.
Je suis à Wrocław précisément.
D'accord.
Mais on est exactement effectivement dans les mêmes situations depuis 10 jours.
D'accord.
Et voilà, donc on était en voyage en fait avec mon conjoint.
Oui.
Et puis brutalement, et ben voilà, on a été confinés comme énormément de personnes en fait, hein, et les frontières ont été fermées. Et puis nous, on était partis sur un voyage de 7 mois, donc de toute façon, ça n'a pas changé. C'est simplement une pause, c'est une suspension.
D'accord.
Voilà, qu'on est en train de vivre, mais je pense que. Je pense qu'étrangement, cette pause-là, c'est quelque chose qui peut être investi. Et je pense que ce confinement, en fait, finalement, il peut favoriser aussi l'introspection et le fait d'être face à soi-même. Et le fait de vraiment savoir ce à quoi on aspire, finalement, dans la vie, dans l'existence. Et même si c'est une période, j'en conviens, extrêmement difficile pour toutes et tous, ça c'est vrai. Voilà, j'ai toujours une pensée pour mes proches, pour les malades, pour les soignants. Mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a un déclic. On est aussi face à nous-mêmes. Et cette pause, en fait, finalement, m'a aussi fait réfléchir. Et j'ai retrouvé les mêmes sensations par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a 2 ans, où justement j'ai décidé, j'ai pris cette décision de vivre mes rêves en fait,
voilà.
Et d'arrêter en fait finalement d'attendre, voilà, d'être dans cette attente finalement permanente de quand j'aurai un moment, quand je serai plus âgée, quand j'aurai plus d'argent, voilà, des choses en fait que je me disais avant finalement.
Ça s'est traduit comment dans les premières décisions que vous avez prises?
Alors dans les premières décisions, en fait, c'est vrai que ça s'est pas fait en une fois.
Mm-hmm.
Ça a vraiment été un processus de vie, j'ai envie de dire. Un véritable processus depuis l'enfance, finalement. Et c'est vrai que c'est des choses où j'ai dû plonger en moi. La première des choses que j'ai dû faire, c'est vraiment de l'introspection, c'est vraiment d'aller à l'écoute du cœur quand le corps lâche. Voilà, parce que j'ai vécu un burn-out, je pense que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus aussi dans notre société.
Ouais.
Et j'avais des problèmes de santé déjà depuis l'âge de 19 ans, assez importants, chroniques. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu une vie en fait atypique et quand j'ai remonté le fil finalement de ma vie, j'ai pu voir en plongeant dans cette introspection que finalement, ce qui est paradoxal, c'est que je savais très bien quand j'étais enfant ce que j'avais envie réellement de réaliser. Et ça, j'ai l'impression aussi qu'on a tendance à oublier l'enfance.
Oui.
On a tendance à oublier l'enfant intérieur qu'on a en nous. Voilà, parce qu'on devient adulte, on entre aussi dans un moule, on entre quelque part aussi, voilà, moi en tous les cas, ça a été mon expérience d'entrer à l'école, d'avoir des croyances aussi limitantes au niveau de la scolarité, au niveau de choses que je pouvais projeter, parce que moi j'ai toujours été attirée par le voyage, ça a toujours été quelque chose de très fort. Quelque chose qui m'appelait depuis que j'étais gamine. Et à chaque fois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais à la retraite, en fait, je vais profiter, je m'achèterai un camping-car et puis je ferai le tour du monde. » Moi, c'est quelque chose que j'en avais beaucoup autour de moi. Et un jour, en fait, je me suis dit « Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, très souvent, on attend quelque chose. On attend, on repousse et on ne va pas forcément... vers ce qui est véritablement viscéral pour nous. Voilà. On va construire finalement notre vie sur l'extérieur, c'est-à-dire suivre une scolarité normale, avoir un objectif de sécurité très valorisant, avec un CDI, la maison, etc. Et puis, on peut aussi se laisser influencer par rapport à des croyances qui sont « non mais arrête de rêver, il faut que tu sois réaliste par rapport à ce que tu as envie de faire
mmh. ».
Et ce piège-là, malheureusement, ça ne fait que repousser systématiquement qui on est à l'intérieur véritablement.
Oui, puis cette société d'aujourd'hui nous fabrique de la sorte, hein, cette pression, je dirais le regard des autres, le rang social qui compte tellement dans notre société française, nous pousse à devenir cet adulte, hein, dont vous parlez, et oublier qu'on est, oublier toute cette magie, finalement, de l'enfance, de l'adolescence, parce que je lis l'enfance aussi à l'adolescence, oublier ouais. cette magie, et surtout, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que j'ai toujours été un enfant et un adolescent libre, et que ça, je ne l'ai jamais oublié en fait. Ce qui fait de moi un homme libre aujourd'hui. Et au fil des années, c'est vrai que vous avez raison. On voit que d'autres ont lâché l'affaire, comme on peut dire dans le langage usuel, et sont devenus des adultes soi-disant responsables. Mais responsables de quoi finalement? Responsables
oui,
de quoi? De l'image
vrai.
Qu'ils renvoient aux autres? Qui n'est pas obligatoirement l'image qu'ils auraient aimé préserver d'eux. En tout cas, pour vous, c'est bien que vous ayez décidé d'aller au bout de vos rêves.
C'est ça, et puis c'est exactement ça, l'image de... Vous avez raison, Olivier, quand vous dites ça, vraiment, parce que au niveau également, on peut se conformer aussi, vous savez, par rapport à la famille. Moi, je vois, je viens d'une famille où, sur 3 générations, on épouse un certain métier. Et donc, j'ai épousé aussi cette voie-là parce que, quelque part, c'est un petit peu la normalité, finalement. C'est un petit peu ce qu'on attend de nous. Et moi, c'est vrai que ça a commencé, par contre, à changer quand je suis tombée très malade. Donc, je suis tombée du jour au lendemain très malade, à l'âge de 19 ans. Et à partir de là, je dirais qu'en fait, ça n'a pas eu l'effet au départ de vraiment réactiver mes rêves. Ça a été plus long. Mais je me suis encore plus conformée par rapport à la sécurité. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que toutes les portes en face de moi étaient en train de se fermer. Et en plus de ça, au bout d'un moment... Bon, j'ai eu pas mal de médicaments à prendre. J'étais encore en fac, donc j'avais 20 ans, 21 ans. Et puis, il y a eu une erreur médicale qui a été commise. Donc, il y a eu un surdosage et j'ai été paralysée, en fait, au niveau de, justement, des jambes. Donc, les jambes refusaient d'avancer, sauf qu'à l'époque, les médecins ne savaient pas du tout ce que j'avais. Donc, j'ai terminé ma licence, j'étais hospitalisée à 300 km de chez moi, en pleine année universitaire, sans savoir véritablement le diagnostic. Les médecins parlaient de fibromyalgie, parlaient de sclérose en plaques, ils ne savaient pas du tout finalement ce que j'avais. Et là, à ce moment-là, le temps s'est arrêté. Et j'ai eu cette sensation que le futur entre guillemets que j'avais eu quand j'étais petite, ben finalement ce futur-là, il n'était pas du tout en train... il n'était plus là, il n'existait plus, in fine. Et que je me suis justement encore plus conformée à ce qu'on attendait de moi, à avoir une carrière, à passer des concours, à arriver finalement à un certain grade. Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas du tout, par contre, d'avoir vécu ça. Parce que ça m'a beaucoup appris quand même. Et je trouve que tout ce qu'on vit, quelque part aussi, a une raison d'être par rapport à ça. Mais in fine, j'ai été encore rattrapée plus tard par la maladie et par des lésions précancéreuses. Et c'est là, en fait, où j'ai eu justement une étincelle de vie, où je sentais que pour la première fois depuis très très longtemps, qu'une autre vie, en fait, était là. Et ce jour-là, en fait, j'étais avec une amie. Et on s'est amusé à écrire en fait ce qu'on allait faire et ce qu'on allait accomplir sous 5 ans. Et j'ai écrit, elle a écrit, au départ c'est vrai que ça pouvait être comme un jeu. Et à partir de là, justement, il y a tout qui est sorti. C'était comme si j'étais en train vraiment de me reconnecter à quelque chose d'autre.
Oui.
Et cette écriture-là, ça a été un catalyseur. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à mettre les choses en place. J'ai commencé à me dire qu'est-ce qui est véritablement important pour toi. Et donc j'ai commencé, voilà, j'aimerais vivre au soleil, j'aimerais avoir, vous voyez, un poste qui me passionne, c'est peut-être des petites choses, mais c'est des choses qui étaient importantes pour moi. Donc j'ai commencé à me libérer petit à petit, et je me suis dit, je veux aussi du temps. Et parce que je veux du temps, justement, pour pouvoir écrire. Et donc voilà, j'avais vraiment tout mis sur pied, et en quelques semaines, eh ben, j'ai réussi en fait à justement avoir ce travail, à avoir ce déménagement. Mmh. Alors pendant les premiers temps, ça s'est très bien passé. Et puis un jour, ben, burn-out. Le métier que j'aimais beaucoup est devenu ingérable. Beaucoup trop de responsabilités. On m'avait donné un poste de management, moi j'en voulais pas. Je voulais pas du tout manager des personnes. Mmh. Voilà, j'ai accepté des contraintes de la structure. Et alors que je voulais justement plus de liberté, on m'en donnait de moins en moins. On prenait trop de temps. Et à partir de là, ben, mon corps m'a encore lâché. Voilà, il m'a complètement lâché. Et le vrai jour où tout a complètement basculé, je suis allée au travail. Il y a eu un petit grain de sable, je vais dire ça comme ça. C'est un jour où, comme tous les matins, je suis allée au travail en tramway. Et mon corps a été pris, en fait, j'ai été prise de nausées extrêmement violentes, de tremblements. Et j'ai entendu, il faut que tu partes, il faut que tu te descendes de ce tramway. Et là, en fait, j'ai ressenti comme si c'était un instinct de survie. Et je suis descendue justement pour pouvoir reprendre le tramway en sens inverse. Je suis repartie chez moi, j'ai fait ma valise et je suis rentrée justement dans mes terres natales.
Oui.
Et j'ai tout plaqué. Donc j'ai commencé, voilà, vraiment à tout remettre à zéro et à faire le reset.
Ce qui n'est pas évident, hein, de faire un reset. Ça vous a pris combien de temps?
Paradoxalement, alors le reset en lui-même a duré plusieurs mois. Mais la décision, par contre, avant de tout plaquer, s'est faite en quelques heures. Mmh. Voilà, je l'ai décidé du midi. Le soir même, j'étais sur mes terres natales.
Ouais. Ce qui,
chez mes parents.
Ce qui a dû déjà marquer un grand pas. Parce que prendre cette décision, même si votre corps vous avait déjà alerté, était en train de vous lâcher, il est certain que cette décision, vous l'avez prise au bon moment. Et le fait de ne pas vous être acharné à ce moment-là, ça a été très important pour la suite, je suppose.
Oui, ça a été très important, et je crois vraiment que c'est essentiel aujourd'hui que les personnes soient véritablement à l'écoute de leur corps. Quand on n'écoute pas son corps, malheureusement, il nous prévient. Et quand on n'écoute pas, il y a des mots qui vont se développer.
Et pourtant, Dieu sait si notre corps nous lance vraiment des signes, des alertes régulièrement. Et vous avez raison de dire que on doit être beaucoup plus attentif parce que nous sommes nombreux à ne pas l'écouter. On va marquer une légère pause, si vous le voulez bien, Caroline. Et puis on va continuer à évoquer la suite de votre vie. Et puis ce voyage de 7 mois-là, ça m'intrigue tout ça. Je vous retrouve tout de suite.
Avec plaisir.
À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Mathieu Noël sur Europe 1.
Bonjour, c'est Mathieu Noël. Tous les jours et plus que jamais, je vous donne rendez-vous de 16h à 18h sur Europe 1 pour une équipée sauvage 100% bonne humeur confinée. Tous nos invités et chroniqueurs s'expriment via un FTP Reportit Full HD Duplex 56K double flux. Je sais foutrement pas ce que ça veut dire, mais croyez-moi, ça envoie du lourd. Quant à moi, je vous présente l'émission depuis chez moi, en peignoir de satin. Et croyez-moi, ça s'entend.
Mathieu Noël, 16h, 18h sur Europe 1.
Ok.
Sur Europe 1.
23h27, si vous nous rejoignez juste maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, si vous souhaitez vous raconter, nous raconter le jour où vous avez pris une décision particulière, le jour où vous avez vécu une journée ou un moment qui a orienté définitivement votre vie d'une autre manière. Le jour où vous n'avez pas pu parler dans un micro parce que vous étiez assez enroué, comme moi je le suis en ce moment, mais rassurez-vous, je peux encore parler. N'hésitez pas à nous appeler au 3921. Florian et Jean-François vous attendent en régie, attendent vos appels. On évoque avec Caroline la vie, en fait, la vraie vie, celle où on choisit enfin d'aller au bout de ses rêves, en tout cas des choses dont on a envie, la vie où on continue, on recommence à rêver, comme lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était plus jeune. On s'interdit tellement, en tout cas je connais tellement de personnes qui s'interdisent cela, de rêver, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, qui parfois ne sont pas tout à fait lié en plus directement au tempérament de cette personne. Il y a souvent des... Vous évoquiez la famille tout à l'heure et le regard qu'on peut porter sur vous et qui est très important parfois pour tout un tas de personnes qui sont incapables d'aller contre ce regard, quoi, qui estime que c'est le plus important, en fait, l'image qu'on envoie et ce que les autres racontent et pensent de vous. Et ce qui parfois nous empêche de faire beaucoup de choses. Vous, Caroline, vous êtes allée au bout. Donc, comment ça a été jugé, d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu à vous confronter au jugement des autres, au regard des autres, votre famille?
Oui. Effectivement. Pas que je témoigne ce soir, mais oui, totalement. Oui, complètement, parce que c'est vrai que je viens d'une famille assez patriarcale. Voilà, où mon papa occupe une grande place et qui veut le meilleur, bien entendu, hein, pour ses enfants. Et je ne jette pas la pierre par rapport à ça, mais qui a une conception de « je connais ton bonheur ». Voilà.
Et je sais ça, ce qu'il faut pour toi.
C'est ça, tout à fait. Et même si c'est en bienveillance, et je sais que c'est de l'amour, mais malheureusement, je pense aussi qu'il y a un décalage générationnel, puisque j'ai 37 ans, mes parents ont presque le double d'âge. Et du coup, c'est vrai que quand je suis revenue, quand je suis allée plonger en moi, quand j'ai affirmé aussi ce que j'avais envie de vivre et de faire, quand je leur ai dit, voilà, moi, je veux devenir écrivain, je serai écrivain, je veux partir et vivre à travers le monde et non pas attendre peut-être un moment qui n'arrivera jamais parce que je suis malade et que je sais pas, et puis que comme tout humain, on ne sait jamais quand est-ce qu'on part. Mais moi, je n'ai pas envie d'attendre ça. Et d'ailleurs, j'ai perdu une très, très bonne collègue qui était un peu ma maman et qui s'est sacrifiée toute sa vie et qui n'arrêtait pas de me dire « Tu sais, t'inquiète pas, je m'occuperai de moi. » Et je m'occuperai de moi à la retraite. Elle avait 50 ans.
Oui, et souvent, c'est un choix risqué de dire ça. Elle n'a jamais réussi, pourquoi ?
Parce qu'elle est décédée.
Elle est décédée.
Elle a eu un cancer.
Ouais.
Voilà. Elle a eu un cancer et ça a été foudroyant. Et elle qui vivait justement pour les autres, qui aidait les autres, qui mettait tout entre parenthèses, Et bien, cette personne-là n'a pas fait ce qu'elle aurait vraiment profondément voulu. Et quand ça s'est arrivé, j'ai eu une vague de décès, en fait, au moment où j'ai tout plaqué, au moment où je suis repartie, justement, dans mon introspection. Et j'ai pris aussi ces décès comme des signes. Et là, en fait, le fait, c'est sûr que ça fait peur. Parce que d'aller regarder au fond de soi, c'est difficile. C'est très, très difficile d'aller à l'intérieur. Et c'est difficile, comme vous le dites, de le dire aux autres. Mais quand vous vous posez des questions essentielles, moi, je me suis posé ces questions-là et je les ai écrites parce que je pense qu'elles sont très importantes pour aussi les auditeurs, peut-être, qui nous écoutent. Mais c'était, si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir vécu ?
Oui, oui. C'est une bonne question, ça, qui peut bien bousculer les choses.
Ah oui.
Ouais.
À côté de quelles expériences je suis passée ?
Ouais.
Qu'est-ce qui m'importe réellement ? Qu'est-ce qui me fait réellement du bien dans ma vie ? Et qu'est-ce qui nourrit mon bonheur et non mon ego ? Et là, je peux vous dire que quand vous attaquez, y a plein de choses qui se pètent la gueule.
Ah oui.
Mais c'est pas négatif du tout. Ben non. Et oui, parce qu'en fait, au départ, vous vous rendez compte que ce qu'on a pu aussi vous inculquer, ça vient de votre héritage, mais c'est pas vous. Vous vous rendez compte que ce à quoi vous accordez vraiment de l'importance, ben, c'est pas forcément, par exemple, ce qu'il y a sur votre compte en banque, mais ça va être plus de vivre certaines choses. C'est peut-être pas l'accumulation matérielle, c'est peut-être de vivre des expériences et des émotions et des moments. Et quand vous vous rendez compte de ça, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et quand vous l'affirmez, ensuite, alors, quand vous l'affirmez aux autres, moi, c'est vrai que là, ça a été compliqué. Je vais dire ça comme ça, mais salvateur. Parce qu'au départ, mes parents n'ont pas forcément voulu comprendre. Mais je pense pas qu'ils n'ont pas voulu. Je crois que on accueille comme on peut. Et il y a des moments, même quand c'est votre enfant, vous pouvez pas forcément accueillir parce que vous avez vos peurs. Mais quand vous êtes confronté à ça, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut tenir bon, rester aligné, et se dire, ok, ça c'est important pour moi, eh bien je le fais, et j'arrête d'attendre une autorisation.
Et je le fais envers et contre tout, surtout, parce que souvent on subit le jugement des autres, comme vous l'avez dit, vos parents n'avaient pas, vous disiez que vos parents faisaient comme ils pouvaient, et finalement... À mon avis, ils pouvaient pas grand-chose, vos parents. D'abord parce que c'était une autre génération, et puis peut-être parce que c'était une autre éducation et que ils n'avaient pas eu la même vie que vous, tout simplement. Donc moi, je dis souvent qu'à un moment, les enfants dépassent les parents, et ça peut arriver assez tôt. Hein. Ça peut arriver assez tôt, finalement. On a longtemps été bercé par le fait que l'éducation qu'on reçoit de nos parents, et bien finalement, elle a un impact très tard dans nos vies. Mais je pense que c'est avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, avec toute cette communication, cette société où tout va très vite et où nous sommes tous confrontés à cette vitesse-là. On doit suivre le rythme, on doit faire ce qu'il faut pour exister, nous. Et donc, du coup, ces parents, en fait, qui n'ont pas connu la même chose que nous, eh bien, ça va moins vite maintenant. Et on parle souvent ici sur cette libre antenne de ces conflits et de ces relations assez toxiques avec les parents qui peuvent devenir toxiques parce que ils sont dans l'incapacité de comprendre la personne qu'on a pu devenir, nos aspirations, ce qu'on a créé comme monde autour de nous. Et je pense que c'est ce qui vous est arrivé aussi. Alors, ça s'est passé comment ensuite? Est-ce que vous avez abouti sur ce projet, justement, de voyager 7 mois et d'écrire en même temps, puisque vous m'avez dit en début de témoignage que vous étiez en Pologne.
Oui.
Et que c'était.
Oui, je suis écrivain. Oui. Oui, tout à fait. Donc, je suis devenue écrivain. J'ai publié 2 livres.
Oui.
Voilà, donc en maison d'édition. Et puis, j'étais donc fonctionnaire. Et passer de fonctionnaire à entrepreneur artiste, je l'ai fait. J'ai sauté le pas. Accompagnée, puisque je suis donc avec mon conjoint. Et c'est vrai que ça aussi, l'amour, ça faisait partie de ce que j'avais envie de vraiment vivre.
Ah ouais, de retrouver. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça donne des ailes, l'amour.
Donc j'ai retrouvé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est
ouais.
Très important.
C'est pas une légende.
Franchement, c'est essentiel.
Ouais,
et donc, c'est vrai que voilà, un jour, voilà, lors de mon burn-out, on s'est regardé un soir, on était ensemble, et après que je sois rentrée de chez moi, et puis là, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce que t'as envie de vivre, toi, dans la vie, véritablement. Et vous savez, c'est ces discussions où vous savez que ça va changer, en fait, quelque chose. Où vous savez que vous parlez pas dans le vent.
Mmh.
Où vous savez que tous les mots qui vont être posés à ce moment-là, ils vont être importants. Et ça va pas être une discussion classique.
C'est un moment où on sent que tout est possible, en fait. Moi, je dis souvent ça.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Où tout est possible parce qu'on est tous les deux. Et où tout est possible parce qu'on est vraiment aussi dans la totale transparence.
Mmh. Où on croit.
Et à partir de là, où on croit, exactement,
ouais.
Et où on décide.
Je dis souvent à ma fille, elle me demande, tu crois que c'est possible ça? Je dis, mais oui, tout est possible à partir du moment où tu y crois, où tu fais tout pour que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, ça n'est pas parce que c'était impossible. Si ça n'arrive pas, c'est que voilà, il y avait tout un tas de choses qui ont fait que ça ne s'est pas réalisé. Mais ça ne veut pas dire que ça restera là et que ça n'est pas possible. C'est vrai qu'elles sont rares, les choses impossibles. Bon, c'est de l'ordre d'aller sur la Lune, par exemple. Bon, voilà, ça me paraît assez impossible. Mais après, avoir des objectifs dans la vie, changer de vie, voilà, comme vous l'avez fait, en étant fonctionnaire, et décider que ça n'était pas la vie qui vous rendait heureuse, et que vous aviez envie d'être écrivain, de voyager. Il est certain que c'était périlleux, mais que vous l'avez tenté et que ça a marché. Donc, qui ne tente rien n'a rien, ça paraît aussi simple à dire, mais pas simple à faire. Ça me fait penser au slogan de la Française des Jeux qui dit « il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent ». Et finalement, c'est ça.
Mais c'est ça,
mais oui.
C'est exactement ça.
Mais oui, c'est ça.
Oui, il y a une vieille blague italienne, et qui dit, c'est un monsieur qui passe tous les matins devant une statue et qui demande, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais que je gagne l'auto. Et le monsieur passe comme ça tous les matins, tous les jours, et il demande et il supplie la statue. Et un jour, la statue, elle en a tellement marre qu'elle se réveille, qu'elle prend forme humaine et qu'elle lui dit, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, achète un billet. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'est-ce que tu as fait pour nourrir, finalement, ce que tu avais envie de faire. Et ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que ce qui est important, il y a des gens qui vont avoir une réaction, si vous voulez, très rapide. C'est-à-dire, ils vont avoir envie, ils vont prendre la décision, ils vont y aller à fond. Et ça va être de l'ordre. Moi, j'ai vu des gens autour de moi tout plaquer du jour au lendemain, réellement, totalement.
Ouais.
Moi, pendant mon burn-out, j'ai plaqué les choses. Ensuite, je suis revenue. Mais quand je suis revenue, j'ai affirmé les choses. C'est-à-dire que j'ai clairement dit, voilà, je reviens dans la structure. Par contre, le 1er janvier 2020, je ne suis plus là. Je me mets en disponibilité. Ça a été directement.
Mmh.
Voilà, ça a été vraiment ce côté, je sais ce que j'ai. Et j'avais 1 an et demi encore à tenir. D'accord ?
Mmh.
Pour pouvoir construire. Parce que j'ai été dans la construction, finalement, d'un projet. Et d'un projet, pour moi, il fallait qu'il y ait des fondations, il fallait qu'il puisse être viable. Donc, je savais pertinemment, voilà, avec mon conjoint, on avait décidé et on a travaillé pour ça. Et on a travaillé, à, voilà, par rapport à nos rêves. Et ça aussi, c'est important parce que les rêves, finalement, qu'on a, j'ai découvert ce qu'on appelle la discipline de l'art. La discipline de l'art, c'est vraiment, vous voyez, parfois, comment vous investissez, par exemple, le temps présent, combien de temps vous, je sais pas, combien de temps on peut consacrer aux réseaux sociaux, combien de temps on peut consacrer, avec vraiment une ardeur, parfois, avec une régularité, etc., et une application. Et je dis souvent aux gens, mais si tu utilises ce temps-là, et si tu le fais avec autant de cœur et autant d'ardeur, mais par rapport à ton objectif à toi, et si tu nourris chaque jour finalement ton objectif, si tu fais à chaque fois une action par jour, et si tu es en constance par rapport à ça, eh bien, cette discipline de rêve, finalement, va te permettre de vraiment réaliser ce que tu as envie de faire. Parce que c'est pas parce qu'on vise finalement un rêve, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on vise la lune finalement qu'on n'a pas les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Et donc à partir de là, ben, on a construit à deux, on s'est serré les coudes. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais t'as énormément de chance de vivre ce que tu vis. Et à cette personne-là, c'est vrai que je leur ai répondu mais tu sais non, parce que c'est pas de la chance, c'est parce qu'on a travaillé aussi pour y arriver. Et je pense que c'est juste en fait des sacrifices aussi, parce qu'on a sacrifié, il a travaillé de nuit, je travaillais de jour, c'était vraiment des conditions pendant 2 ans. Oui, c'était pas évident, c'était du don de soi, c'était des choses qui étaient peut-être complexes, mais ben, on avait un objectif, et cet objectif-là nous tenait.
On n'a rien sans rien, en tout cas, ce qui est certain, ça, Caroline. On n'a rien sans rien. Et vous avez bien fait de d'y croire, déjà. Donc, alors, à la fin de ce confinement en Pologne, vous allez où? Vous en étiez à combien de temps de votre voyage?
Alors, nous, on a fait déjà un mois. On est parti 1er février, donc un mois et demi. De voyage, on était très heureux parce qu'on a vu des endroits qu'on voulait vraiment voir depuis très longtemps. Donc on est parti, voilà, d'abord dans l'ouest de la France, et puis on est monté en Belgique, à Amsterdam. On est parti ensuite sur Berlin, et puis ensuite on a fait Varsovie, Cracovie, et à Cracovie, le verdict est tombé, confinement. Donc là, on est parti sur Wrocław. Et ensuite, après la fin du confinement, alors tout dépendra, mais normalement, je pense qu'on va sauter des étapes. On va s'adapter par rapport à la situation. On va voir bien évidemment comment aussi réagissent les pays. On ne sait pas du tout si toutes les frontières seront levées en même temps ou quoi. Parce qu'on a vu pour objectif aussi d'arriver jusqu'en Turquie. Et voilà, on ne sait pas encore exactement, mais on va s'adapter. Et puis, je pense que quand on a des, comme ça, quand on a des plans aussi qui sont contrariés, parce que forcément, on a accueilli ça, comment dire, avec toutes les émotions possibles qui peuvent être là,
oui,
qui sont justes. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va s'adapter, et puis on est vivant. Donc, c'est ce qui compte. On est vivant, on préserve notre voilà, on préserve aussi ça, on est ensemble. Et je pense que l'amour aussi, c'est très très important. Le fait d'être confiné à deux, quand on s'aime, il y a pire.
Ça, je vous le fais pas dire. C'est ce qu'on se disait avec ma femme et ma fille cet après-midi. C'est très bien d'être trois parce que j'ai pas mal d'amis qui sont tout seuls. Et je peux vous dire que ce confinement, seul, il faut vraiment être courageux et avoir de l'imagination. En tout cas, merci mille fois, Caroline, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, bien évidemment, écoutez, je vous souhaite un bon, une bonne fin de confinement, hein, parce que ça va pas s'arrêter tout de suite en Pologne comme chez nous. On est sûrement parti pour au moins 4 semaines encore, minimum.
Oui.
Et puis, bonne fin de voyage si on ne se reparle pas avant la fin. D'accord?
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Belle soirée à vous.
Belle soirée. Au revoir.
Au revoir.